Bonjour, chères auditrices, chers auditeurs. Bienvenue sur Agora Côte d'Azur et votre émission franco-italienne, les Transméditerranéennes. Bonjour Barbara et Marcel.
Bonjour, bonjour.
Bonjour.
Je crois que vous allez nous parler une nouvelle fois de la route du sel, mais cette fois-ci sur la partie italienne, puisque vous avez fait la partie française une première fois.
Tout à fait. Vous allez quand même rapidement découvrir que ces routes sont très imbriquées. Hein. Côté italien, donc, nous allons vous parler de la haute route du sel. Vous comprendrez vite pourquoi. Cette route porte l'empreinte de siècles de passages, de bergers, de voyageurs, de commerçants et de soldats.
La Alta Via del Sale è veramente un'emozionantissima strada, stradina, è un percorso di circa 90 km che inizia a Varzi, in Lombardia, e termina al mare, a Portofino, in Liguria.
Et bien en route.
Alors, nous allons partir d'un lieu bien connu des skieuses et des skieurs, du 06, Limone.
Ah sì, Limone.
Mais le ski n'est pas le seul intérêt de ce village italien. Voilà, je vais vous en parler un petit peu. Limone et Piemonte se trouvent à la confluence de deux torrents, le Vermegnana et le San Giovanni. Et cette position et la proximité d'un des cols les plus fréquentés du sud Piémont, nous parlons du col de Tende, en fait un lieu de passage très important.
Quand il est ouvert.
Oui, ça c'est une autre histoire, plus contemporaine. En tout cas, c'est un lieu de passage depuis les Romains. Et on trouve des restes de la voie romaine au lieu dit Limonetto. Depuis le 19e siècle et les ducs de Savoie, il y a eu des tentatives de percement d'un tunnel. On y arrive pour rendre plus accessible ce fameux col de Tende. Le tunnel routier utilisé jusqu'à il y a quelques années a été ouvert en 1882. Et le tunnel ferroviaire en 1900. La construction du nouveau tunnel, apparemment, ça se remet en route.
Oui, mais c'est pas pour aujourd'hui.
Voilà.
Patience. Mais pour parler des parcours qui se font autrement, pas en voiture, donc n'utilisant pas le col de Tende, c'est un bel libricino edito dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale sull'Alta Via del Sale. È veramente interessantissimo. Sono itinerari di scoperta tra le Alpi e il mare ed è scritto in francese e in italiano, quindi proprio fa a caso nostro. E ci sono all'interno diversi percorsi, per esempio, vi faccio un esempio, la via off delle cime, dalle cime ai borghi, di una lunghezza, anche questa, di 90 km, ed è un percorso transfrontaliero, quindi si passa dall'Italia alla Francia, dalla Francia all'Italia. Poi c'è la via dei Forti, per esempio, un itinerario, questo di una quarantina di chilometri, che è praticabile in mountain bike o a piedi o a cavallo, quindi è veramente simpatico.
Bien, beau programme en perspective. Vous nous en dites un peu plus sur Limone?
Vous savez bien donc que c'est une localité touristique, mais pas que pour le ski ou la montagne. Son centre historique a gardé quelques trésors. Il y a l'église médiévale San Pietro in Vicoli, l'église du couvent des Cappuccines, 18e siècle, ou la chapelle San Giovanni Battista, 1614. Ça vaut le détour. Mais on peut ensuite aborder cette fameuse autoroute du sel. De Limone à Monesi, un itinéraire en terre battue. Il serpente entre 1800 et 2100 mètres d'altitude. Vous commencez à comprendre pourquoi on parle de haute route du sel.
Ah ben si.
Évidemment, on y circule fin du printemps, été, automne. Ensuite, la neige le rend impraticable.
Se vuoi sapere qualcosa di più, Tino, rispetto al Limone, eccetera, una cosa interessante che ho notato, che ho visto, è a proposito delle diverse animazioni che hanno luogo a Limone, sia in inverno che in estate, è interessante citare la nascita di un nuovo gruppo folcloristico, si chiama, scusate, il gruppo della Baia di Limone, e Valle, e si tratta di un'associazione che si prefigge di promuovere la cultura e le tradizioni della valle vermignana, come dicevi, che è dal nome del fiume, attraverso la musica popolare e i balli della tradizione alpina. E in effetti questa associazione all'attivo ha diverse partecipazioni in sagre, in programmi televisivi e diverse fiere. E chiunque allora volesse partecipare attivamente può prendere parte agli incontri di insegnamento e di prove di ballo, attenzione, che hanno luogo ogni terzo venerdì del mese presso l'anfiteatro del liceo di Limone alle ore 21. Io trovo che è un bel progetto. Sì. Tutti sono accolti.
È vero.
Tutti,
Bien, je pense que vous allez nous proposer de quitter Limone. Je rajouterai simplement pour nos auditeurs et auditrices d'aller jusqu'à Vernante. Et c'est une bourgade industrielle, mais qui a quand même vu naître l'illustrateur de Pinocchio.
Exact.
Et donc vous verrez sur les maisons, c'est assez marrant, vous verrez sur les maisons les personnages de Pinocchio peints sur la plupart des maisons du village. Ça vaut le coup de faire le tour, on redécouvre la baleine, on Geppetto, etc. Et tout. C'est assez marrant. On peut y déguster une pizza, ça, c'est pas
le problème. Tu manquais le nostro.
Je vous laisse quitter Limone et nous proposer de continuer le voyage.
Volontiers. Eh bien, on quitte Limone et on part vers le col de Tende. Et on se retrouve du côté français. Ensuite, on va jusqu'à Casterino. On continue la boucle en passant de nouveau en Italie, dans le parc des Alpes Liguri. On marche jusqu'au mont Saccarello. Puis, on arrive à Notre-Dame des Fontaines et à la Brigue, française, mais depuis 1947. Là, on a dit déjà qu'on navigue entre deux. Voilà, la frontière, elle ne sépare pas les balades. On en a déjà parlé, donc, effectivement, dans la partie française de la route du sel. Puis, retour en Italie. Et là, on grimpe vers le massif du Margherès. Le point le plus haut du chemin est déjà à 2260 mètres. Et il nous fait découvrir un paysage lunaire façonné par la roche calcaire. Magnifique. Si on est courageux et en bonne forme, on peut bifurquer jusqu'à la pointe du Margueres, 2600 mètres. Puis, on retrouve le col de Tende.
Ah, c'est un bel circuit, hein?
Oui.
Et appunto, riprendendo il discorso su questo famoso libretto delle alte vie del sale, è interessante, lo riprendo perché parlando dei diversi borghi che si attraversano effettuando l'alta via del sale, qui nel libro ci sono delle informazioni molto interessanti sui punti di maggiore interesse dei diversi paesini. E se siete interessati, chiedete questo libricino nei sindacati di iniziativa turistica perché lo troverete.
Bien, c'est formidable ce que vous nous racontez, mais là on est plus dans la balade ou dans la randonnée que dans le parcours des siècles passés, ce que certains de nos auditeurs, avec leur nostalgie, souhaiteraient.
Ah bon, oui, bien sûr.
Il faut de tout pour faire un monde.
Exactement. On ne peut pas se figer dans la reconstitution historique. On peut découvrir ces sentiers qui ont une histoire, effectivement, de commerce, d'échanges, et des fois de choses, voilà, de guerre aussi, hein, de passage de soldats, sous l'angle de balade dans ces magnifiques montagnes. C'est pas mal non plus. Et on peut voir plus grand et plus long. 700 kilomètres, 17 cols, 3 parcs naturels nationaux, c'est la route des Grandes Alpes.
Ah oui.
De la Méditerranée au lac Léman, les grands circuits de circulation des siècles passés sont restés des chemins pour randonneurs aguerris et passionnés. Donc on est entre histoire et randonnée.
Et sempre per mettere insieme la storia e le passeggiate in diversi modi. È interessantissimo, insisto perché è interessante, la ciclovia del Tanaro. Da Priola al ponte di Nava. Il Tanaro è bellissimo questo fiume perché circola veramente a serpentina, è veramente molto molto bello anche quando si fa in macchina, è una strada molto bella. La pista ciclabile affianca per tutto il suo percorso l'andamento di questo fiume per una lunghezza totale di 27-28 km e attraversa diversi comuni tra cui Priola, Garessio, bellissimo anche quello, e Ormeo. Questo itinerario si completa con altri percorsi ciclabili, permettendo di effettuare deviazioni e proseguimenti sul territorio delle vie del sale, perché le vie del sale, beh, ce ne sono diverse, non è che sia unica e sola. Il libro presenta 8 tracciati, quindi ce n'è per tutti i gusti.
Bien. Vous nous parlez de la via del sale, mais on n'a toujours pas parlé du sel, hein?
Eh bien, on y arrive, justement.
Il est pressé, aujourd'hui.
Oui. Alors, là, on revient dans l'histoire. On ne doit pas oublier que le sel, qui est aujourd'hui un produit banal, hein, peu cher, était plus difficile à trouver. Et c'était un bien d'échange important. On avait expliqué dans l'émission précédente, hein, qui sert à conserver la nourriture, tanner les peaux, à beaucoup, beaucoup de choses. Les populations ont longtemps souffert du monopole du sel par les pouvoirs en place. Ça, c'est banal. Ça s'appelait les gabelles du sel. C'était un impôt qui passait par l'achat obligatoire d'une quantité de sel proportionnelle à la taille de la famille.
Et bon,
ah, c'était bien
bon
trouvé, hein, comme
ah,
impôt.
Si.
Il y a eu des révoltes, des guerres qui ont frappé des zones alpines de la province de Cuneo, où la population s'était révoltée contre le pouvoir. Parce que c'était écrasant comme impôt, hein, les gabelles du sel.
È vero, e a causa del sale sono state effettivamente combattute sanguinose guerre, veramente. E non c'è da meravigliarsi quindi che alcune strade che collegano la pianura con il mare, che è la fonte naturale di questo prezioso elemento, il sale, siano ricordate ancora oggi con questo nome. E l'Alta Via del Sale lega il suo toponimo alle antiche carovane che percorrevano uno dei valichi storici più antichi che attraversavano la catena alpina. E la strada porta oggi chiaramente il segno della storia e dei secoli che l'hanno vista calpestata da pastori, da viandanti e da soldati. Dei passaggi che hanno lasciato veramente un segno, accrescendo sempre di più il patrimonio legato alla strada stessa, strada fatta di ponti, di scarpate, di muri, costruiti a mano, si intende.
Eh bien, je n'aurais pas pensé qu'il pouvait y avoir un lien entre des guerres et le sel, même si, quand j'étais minot et que j'allais en Italie, on achetait le sel au bureau de tabac.
Ah oui.
Donc,
oui, c'est vrai.
Mais de là à penser qu'il pouvait y avoir la guerre pour ce produit.
È vero, infatti c'era scritto sulle scritte del fuori, c'era scritto sale e tabacchi.
Sale e tabacchi, sì.
Mais il y a eu la gabelle du sel en France aussi, hein?
Tout à fait.
Oui. Les gens au pouvoir.
L'Italie n'a pas le monopole.
Non.
Et oui, parce que ce qui est rare est convoité. Et le plus souvent est accaparé par ceux qui ont le pouvoir. Quant aux révoltes, elles ne sont pas souvent victorieuses. Dans ce cas précis, il y a eu des déportations de familles entières.
Ah oui.
Bien, encore quelques informations à nous donner?
Écoute, pour moi c'est bon. On a abordé pas mal de choses. Et toi, Barbara?
Beh, per me va bene, anche per me, nel senso che abbiamo già dato tante informazioni. Io l'unica cosa che vorrei, che voglio ricordare per me e che vi trasmetto è che non sono le persone a fare i viaggi, ma i viaggi che fanno le persone. Quindi buon viaggio a noi tutti.
Bella pensiera.
Bel pensiero, sì.
Pensiero.
Bien, et bien merci pour ce voyage entre histoire et randonnée. Voici le moment où je vais tenter de vous expliquer une recette, et là, une recette réellement piémontaise, puisqu'il s'agit de préparer la sauce verte. Sauce verte est également appelée bagnette verte. Bon, la sauce verte, bon, je vous l'ai dit, est une sauce typique du Piémont, utilisée dans toute l'Italie pour sa simplicité et sa saveur. Cette sauce est parfaite pour tout type de viande bouillie, notamment pour la langue de bœuf. mais elle est surtout utilisée pour accompagner le plat piémontais par excellence, le bouillon à la piémontaise.
Allora, questa salsa verde di cui parli, che in Piemonte, che è tipica del Piemonte e che è chiamata in piemontese bagnette vert, boh, che non si traduce, è così, bagnette vert, è una salsa che è perfetta, come dici, per tutti i tipi di carne bollita e in particolare per la lingua di manzo. Ma dici Tino che è soprattutto utilizzata per accompagnare il piatto piemontese per eccellenza che è il brodo alla piemontese. Questa salsa verde effettivamente ho visto è tipica piemontese, dici che si usa un po' dappertutto in Italia, ma secondo le regioni in Liguria per esempio la fanno già diversa. Quindi sì. Ci sono delle ricette diverse, però diciamo la base è questa. Ed è squisita.
Alors les ingrédients pour 4 personnes. Anchois 3 filets, vinaigre rouge 50 ml, ail 2 gousses, capre 1 cuillère à soupe, huile d'olive vierge extra 100 ml, pain blanc dur 80 g, poivre noir, persil 120 g, œuf dur 2 et du sel. Il sarà rotto di sel,
eh? Ah sì, effettivamente. Già con le acciughe, 3 filetti d'acciughe, già quello del sale sì. Ce n'è. Poi aceto rosso, 50 ml, aglio, due spicchi d'aglio, un cucchiaio grande di capperi, 100 g di olio extravergine d'oliva, 80 g di pane bianco duro, di pepe, prezzemolo, 2 uova dure, sode e sale.
Alors la préparation proprement dite, nettoyez le persil avec soin en ne gardant que les meilleures feuilles, ensuite lavez le persil, essuyez-le, hachez-le très finement, faites de même avec les anchois, l'ail et les capres.
Allora, per quanto riguarda la preparazione, allora si lava il prezzemolo, bisogna asciugarlo, poi tritarlo molto finemente e fare la stessa cosa per le acciughe, l'aglio e i capperi.
Tremper le pain sec dans la vinaigre, essorez-la bien et tamisez, incorporez aux autres ingrédients et mélangez bien avec l'huile. Ensuite, ajoutez du sel et du poivre selon votre goût et incorporez aussi les jaunes d'œufs que vous aurez préalablement tamisés.
Ah, va bene. Allora, il pane duro di cui si dice negli ingredienti deve essere messo quindi nell'aceto, poi dopo bisogna strizzarlo bene e setacciarlo, incorporarlo con gli altri ingredienti e unirli ben bene all'olio. In seguito si aggiunge il sale e il pepe, state attenti al sale perché con le acciughe è già abbastanza salatino, il pepe secondo i vostri gusti e si incorpora dentro anche i rossi d'uovo che sono stati anche quelli setacciati prima.
Alors quelques conseils encore, la sauce doit être assez liquide et doit reposer au moins 24 heures avant d'être consommée. Si vous ne la consommez pas tout de suite, vous pouvez la conserver au frigo, dans un bocal et recouverte d'un peu d'huile d'olive.
Ah, questo non lo sapevo. Effettivamente, allora la salsa deve essere abbastanza liquida e bisogna farla riposare per 24 ore prima di consumarla. Se non si consuma subito, si può conservare in frigo, in un barattolo, ricoperta con dell'olio d'oliva.
Alors, comme il s'agit d'une recette, toujours pareil, d'une recette pour les gens du peuple, les gens qui n'avaient pas beaucoup de moyens, puisque vous avez utilisé les jaunes d'œufs, si vous coupez en deux les blancs d'œufs, vous pouvez les utiliser pour les recouvrir de sauce verte. Il existe plusieurs façons de préparer cette recette. Dans certaines régions, on prépare la sauce verte en ajoutant du sucre et 2 cuillerées à soupe de coulis de tomates. On utilise du piment entier à la place du poivre. Où on ajoute plus d'ail. Je pense que ça, c'est on va vers le sud déjà, hein, avec le piment et le.
Ah, certamente. Comunque, sì, effettivamente, come dici, perché nulla deve essere sprecato. Quindi, i gialli d'uovo possono essere utilizzati una volta sodi per ricoprire la salsa verde. E come dicevamo all'inizio, esistono diversi modi di preparare questa salsa. E in certe regioni, effettivamente, io conosco quella ligure, però in certe regioni si prepara aggiungendo un po' di zucchero e 2 due cucchiai, due grossi cucchiai di salsa, da salsa al pomodoro. E si utilizza anche del, come si dice, del peperoncino intero al posto del pepe, e si aggiunge dell'aglio. E come dici tu, certamente questa è già una ricetta che è più tipica del sud, sì. Perché si vedono gli elementi.
Peux vous souhaiter bon appétit, enfin, je pense que nous vous souhaitons bon appétit.
Sì, certo.
E a bientôt.
Grazie mille a tutti e alla prossima, arrivederci.